pensais notamment à Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Ils dénoncent une mascarade de concertation. Les syndicats de cheminots sont ressortis bredouillés en colère après une première réunion avec le gouvernement depuis le lancement de la grève de 2 jours sur 5 contre la réforme du rail. Explication dans un instant. Plus qu'une poignée d'universités bloquées par des étudiants en France, mais les AG à répétition, pour savoir s'il faut reprendre le mouvement, vont-elles bloquer la tenue des examens ? Analyse dans un instant.
Vendredi à haut risque dans la bande de Gaza, la frontière avec Israël. Nouvelle journée prévue de manifestation de Palestiniens.
Les Européens sous la menace d'un cheval de Troie chinois dans l'automobile, c'est l'avertissement lancé par Carlos Tavares, le patron de PSA. Une menace renforcée par l'arrivée de nouvelles normes environnementales. C'est ce que nous dira Jean-Marc Chardon à la fin de ce journal dans son billet économique.
Et dans 15 minutes, une question quasiment métaphysique. Catherine, arrêter la politique, est-ce une nouvelle manière de s'engager ? On posera la question à Didier Demazière, sociologue au CNRS.
Après 2 premiers jours de grève à la SNCF et plus de 6 heures de réunion hier soir avec la ministre des Transports, Elisabeth Borne, les syndicats de cheminots sont insatisfaits ce matin. Aucune avancée, disent-ils, sur la question de la dette, du financement et du statut de l'entreprise. Les syndicats réclament une reprise de la dette du ferroviaire par l'État. 50 milliards d'euros que l'entreprise ne peut plus assumer. Le gouvernement veut lui d'abord engager la restructuration de la SNCF et du statut des cheminots avant d'en discuter. Bref, un dialogue de sourd, Eva Jednak.
À la sortie du ministère, les syndicats sont en colère. Ils espéraient une véritable reprise du dialogue avec le gouvernement et des avancées sur la question de la dette et du financement de la SNCF. Aucune proposition ne leur a été faite. Une perte de temps pour Laurent Brun, secrétaire général de la CGT Cheminot.
Cette réunion était une véritable mascarade. La ministre s'est contentée de critiquer ou de faire des remarques sur les propositions des organisations syndicales sans apporter elle-même de propositions et de contenu. Et quand nous nous agaçons un peu auprès de la ministre en lui disant « Mais quelles sont vos propositions concernant la dette ? Quelles sont vos propositions concernant les financements ?» Eh bien, on nous renvoie à plus tard. On sent finalement un gouvernement qui attend que ça se passe. Et puis qui se dit, bon voilà, on a fait une réunion de plus, on est content.
Même son de cloche du côté de Sudrail qui appelle à durcir la grève au-delà de 2 jours par semaine. Et même la CFDT et UNSA, d'habitude plus réformistes, reconnaissent un blocage de la part du gouvernement. Roger Dillenseger, secrétaire général UNSA Ferroviaire.
Même nous, UNSA Ferroviaire, on n'a pas vu d'avancée. Aucun élément, si je me mettais face à une assemblée générale de cheminots en grève, je ne saurais pas quoi leur dire pour leur faire sortir de grève. Donc on est dans une situation où le mouvement social risque bien de se durcir.
Une nouvelle rencontre est prévue cet après-midi au ministère pour discuter cette fois de l'épineuse question de la réforme du statut des cheminots. Les syndicats n'en attendent rien, mais ils seront là. Pas question d'être accusés de pratiquer la politique de la chaise vide.
Et aujourd'hui, une autre réunion se tiendra au ministère, cette fois sur les droits sociaux des cheminots. Eux se sont retrouvés à Voincourt, dans la Somme hier, sur une ligne ferroviaire qui serait selon eux menacée de disparition par la réforme de la SNCF. Des responsables de la gauche hors parti socialiste ont dit vouloir construire un rapport de force extrêmement large face à ce qu'ils appellent le pouvoir autoritaire d'Emmanuel Macron. Pierre Laurent et Sébastien Jumel du Parti communiste étaient du voyage. Olivier Besancenot également pour le NPA. Benoît Hamon avec son mouvement Génération. Ainsi que François Ruffin et Éric Coquerel pour la France Insoumise. Aujourd'hui, les universités bloquées se comptent sur les doigts de la main. Il y en a 4. Toulouse 2, campus du Mirail. Paris 8, Saint-Denis. Paul Valéry, la faculté de lettres et de sciences humaines de Montpellier, ainsi que la fac de lettres et de sciences humaines de Nancy, où le blocage du campus entre dans sa 3e semaine. Mais le mouvement général contre la loi Vidal et les nouveaux accès à l'enseignement supérieur, avec des AG et des mobilisations en tout genre, tout cela va-t-il perturber la période des examens qui commence bientôt ? Les examens auront bien évidemment lieu, a assuré hier le Premier ministre Édouard Philippe. Les présidents d'université sont également confiants, Mathilde Erard.
À ce stade, j'ai l'impression que tout va pouvoir se tenir sur l'ensemble des universités.
Gilles Roussel, le président de la conférence des universités et président de l'université Paris-Est Marne-la-Vallée, n'est pas trop inquiet, mais reste prudent.
Il peut y avoir un événement, un endroit qui mette le feu comme ce qui s'est passé à Montpellier, qui a généré un rejet légitime de la part des étudiants et voilà une montée des contestations.
La période des partiels n'a pas encore commencé et les présidents des universités réfléchissent à des plans B.
Bien sûr, tout le monde se prépare et il y a des moyens moyens en déplaçant des cours dans d'autres endroits, et là, dans la plupart des universités, c'est faisable. Il y a aussi tous les moyens électroniques maintenant qui permettent de mettre à disposition un certain nombre de supports d'enseignement
avec les
évolutions en ligne. Et si certains amphis sont bloqués, dans la plupart des villes, il y a des centres pour faire passer les examens type permis de conduire ou concours divers et variés.
Hier, la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, et le Premier ministre ont assuré que les examens auront lieu. Mais pour Hervé Christoffel, secrétaire général du Syndicat national de l'enseignement supérieur, le gouvernement ne mesure pas assez l'ampleur de la situation.
Il est dans le déni de la mobilisation, il dit que c'est quelques petits foyers isolés, et puis il est dans le déni du fonctionnement de sa plateforme Parcoursup. Elle n'est pas du tout adaptée au nombre d'étudiants à affecter dans le supérieur et risque d'en laisser beaucoup sur le carreau. Alors maintenant, face aux examens, il dit tout va bien.
Des examens qu'1 500 000 étudiants devront tout de même passer ce mois-ci, en mai et en juin, pour avoir leur semestre.
La colère continue de monter chez les parents d'élèves de Seine-Saint-Denis. Après les violences répétées dans des collèges et des lycées du département, ce matin, des parents ont prévu d'occuper le lycée Utrillo de Stein, où un élève a été frappé à coups de marteau il y a quelques semaines et où des bagarres viennent perturber quotidiennement le fonctionnement de l'établissement. Hier, une autre manifestation a rassemblé 150 personnes. 344 millions d'euros alloués à l'autisme pour les 5 années à venir, c'est beaucoup plus que ce qui avait été attribué lors du dernier plan précédent. Édouard Philippe présente cet après-midi donc le 4e plan national sur l'autisme. À Matignon, on reconnaît qu'il faut corriger une situation dont la France n'est pas fière. 45% des enfants sont diagnostiqués entre 6 et 16 ans, beaucoup trop tard pour espérer les faire ensuite progresser rapidement. On y revient dans le journal de 7h30.
Vous écoutez les matins de France Culture avec le journal de Catherine Dutu. Il est 7h06. Une manifestation à haut risque aujourd'hui dans la bande de Gaza.
Israël a prévenu, pas question de changer les consignes de tir déjà donné la semaine dernière quand 18 Palestiniens avaient été tués par balles. Aujourd'hui, les habitants de la bande de Gaza devraient de nouveau se mobiliser à l'appel du Hamas à la frontière israélienne pour réclamer l'application du droit au retour. Mais dans cette même bande de Gaza, l'appropriation des manifestations par le Hamas met une partie des habitants sur la défensive, Étienne Monin.
Abou Khalid a un vieux contentieux avec le Hamas, ça remonte à quelques années. Le mouvement a enrôlé son fils contre son avis et il agit depuis, dit-il, comme une secte qui essaye de le séparer de sa famille. Abou Khalid critique donc la récupération du mouvement qui ne profite pas selon lui aux habitants mais aux groupes politiques.
Le succès de cette action profite aux factions, maintenant au Hamas. Ça sera comme ça tant qu'il n'y a pas un soutien international et mondial et tant qu'on ne résoudra pas les problèmes des habitants de Gaza. Parce que la bande de Gaza vit une crise très difficile, donc c'est le Hamas et les autres groupes politiques qui profitent de la situation.
À Gaza, la paternité de cette action est contestée. Pour le Hamas, c'est un mouvement spontané venu d'Internet. Pour le parti concurrent, le Fatah, c'est une création politique à laquelle le Hamas a adhéré sans véritablement y croire avant de la parrainer. Quoi qu'il en soit, pour le Hamas, c'est une carte importante que les islamistes jouent sérieusement à un moment où leur horizon s'est considérablement rétréci.
Aux États-Unis, la fronde d'une partie des salariés de Google. Dans une lettre ouverte, ils demandent à leur entreprise de ne plus travailler pour le Pentagone. Depuis un an environ, la firme californienne travaille effectivement avec le ministère américain de la Défense sur un projet d'analyse d'images de drones. Plus de 3000 employés de Google réclament donc la fin de ce programme de coopération, contraire selon eux aux valeurs de l'entreprise. Les précisions à Washington de Grégory Phillips.
Nous pensons que Google ne doit pas être impliqué dans le business de la guerre, dit cette lettre adressée directement au PDG de l'entreprise, Sundar Pichai, qui circule en interne depuis des semaines. Elle a déjà été signée par un peu plus de 3100 salariés sur les 70 000 que compte le groupe. Ce que dénoncent ses employés, c'est en particulier le projet Maven, piloté par le Pentagone et auquel Google collabore depuis avril 2017. Le programme est conçu pour mieux analyser les images de drones. La direction de Google affirme que cette technologie est utilisée à des fins non offensives, mais en vérité, elle peut aussi permettre de surveiller des lieux ou d'identifier des cibles. Plus largement, ses employés de la Silicon Valley souhaite que Google coupe les ponts avec le ministère américain de la Défense, mais le secteur militaire est un marché que les grands groupes technologiques ne veulent pas et ne peuvent pas ignorer. Comme Google, Microsoft et Amazon sont impliqués dans des projets similaires.
Ils sont l'objet de toute l'attention de Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, qui brigue un troisième mandat dimanche prochain. Les électeurs de la diaspora hongroise, quelques 2 millions de Magyars, qui vivent en effet en dehors des frontières de la Hongrie actuelle. C'est la conséquence du traité de Trianon en 1920 qui a amputé la Hongrie de plus des 2/3 de son territoire. Des Hongrois donc choyés par le pouvoir de Viktor Orban à Budapest, qui leur a distribué des passeports et qui leur a offert le droit de vote. Marie-Pierre Véro a rencontré l'un de ces Hongrois qui vit à Budapest.
Je suis de Roumanie, de Transylvanie. Là-bas habitent plus d'un million d'Hongrois qui culturellement sont Hongrois, mais politiquement ou juridiquement, ils sont Roumains. J'ai reçu aussi un tel passeport et je pense que plus d'un million de citoyens ont reçu.
Ce jeune homme, qui préfère conserver l'anonymat, habite à Budapest. Il ne votera pas pour le parti au pouvoir. Mais ce ne sera sans doute pas le cas, pense-t-il, de la majorité des Hongrois de Roumanie. Pour gagner leur suffrage, Viktor Orban n'a en effet pas ménagé sa peine ni ses fous.
La majorité de Roumanie, par exemple, ils vont voter à Fidesz, ça c'est sûr, parce que le Fidesz est amical avec eux et ils financent beaucoup d'institutions. Ils ont fait, par exemple, une université, le Sapientia. Il y a 3 campus, Cluj-Napoca, Kolozsvár, à Marosvásárhely et à Csíkszereda, en Transylvanie. Ça, c'est 3 villes de Transylvanie. Donc, ils donnent beaucoup de l'aide pour les groupes minoritaires qui habitent là. Donc, pour eux, je pense que ça, c'est une réaction naturelle qu'ils votent pour le Fidesz.
Lors des dernières élections, les minorités hongroises de l'étranger avaient offert un siège de député au parti au pouvoir. En 4 ans, le nombre de Hongrois de la diaspora inscrits sur les listes électorales a quasiment doublé. Plus de 200 000 d'entre eux devraient voter dimanche prochain. Et pour ce scrutin, chaque voix compte, car Viktor Orban entend conserver sa large majorité des 2/3 afin de continuer à modifier à sa guise les lois dans le pays, ce qui inquiète les associations de défense des libertés.
L'indépendantiste catalan Carles Puigdemont devrait sortir aujourd'hui de prison après l'abandon par la justice allemande de l'accusation de rébellion qui pesait à son encontre. L'ancien président du Parlement catalan reste toutefois sous la menace d'une extradition vers l'Espagne, mais pour des charges moins lourdes de détournement de fonds publics. On y revient dans le journal de 7h30. C'était un enfant de la guerre et il avait tiré de sa propre expérience son film le plus déchirant, Le tombeau des Lucioles, sorti en 1988. Le réalisateur japonais Isao Takahata, grand réalisateur de films d'animation, est mort à l'âge de 82 ans, le complice de Miyazaki dans le studio Ghibli. S'était donc inspiré de son enfance, fuyant pieds nus avec l'une de ses sœurs les bombardements américains de la région d'Okayama au Japon en 1945 pour créer Le tombeau des Lucioles, cette histoire bouleversante de deux orphelins durant la guerre, à la fois tendre et très dur. On entend d'ailleurs en ce moment la musique du film. Isao Takahata est également l'auteur de Mes voisins les Yamada, sorti en 1999. Et puis plus récemment, il avait mis en image Le conte de la princesse Kaguya, adaptation d'un conte populaire datant du Xe siècle. Un ravissement, des personnages qui étaient dessinés au fusain, des décors ton pastel, un vieux coupeur de bambou. C'est pour l'histoire, découvrir une princesse sur une pousse de bambou justement. Et elle passait du bébé joufflu à une princesse beaucoup plus polissé, le trait de Takahata changeait. Il suivait ce mouvement de l'esquisse au durcissement du trait au fur et à mesure où la société tentait de domestiquer cette princesse. Isao Takahata est mort à l'âge de 82 ans.